Dans l'épisode du jour, on va parler des choses administratives que vous devez mettre en place si vous recrutez pour la première fois. Alors, je m'adresse spécialement aujourd'hui à ceux qui veulent recruter pour la première fois, mais vous pouvez tout à fait écouter ce podcast si vous avez déjà eu l'occasion de recruter, parce que je suis pratiquement sûre et certaine qu'il y a des éléments dont vous n'avez pas connaissance. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec le jingle. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast du blog mafuturerecrue.com, le podcast pour apprendre aux entrepreneurs à mieux recruter eux-mêmes et à gérer leurs salariés. Je suis Emmanuelle Chegren et je suis ravie de vous accueillir. Alors je sais que les papiers administratifs, ça fait peur à plus d'un d'entre nous d'ailleurs. J'aime bien associer d'ailleurs les papiers administratifs à la compta. Dès que je dis compta, ça y est, c'est horrible, c'est quelque chose qui nous répulse un peu tous. Et j'en parle un peu en connaissance de cause, parce que quand je dois faire ma comptabilité, je dois vous dire que j'y vais un peu à ronculons, sachant que je suis une ancienne comptable, donc et voilà, c'est merveilleux. Donc je vous comprends parfaitement. Si tout simplement vous êtes complètement dépassé par vos papiers administratifs et surtout par vos papiers administratifs lorsque c'est le moment pour vous de recruter pour la première fois. Sachez que c'est une étape assez importante qui suffit juste de savoir qu'est-ce que concrètement au niveau administratif vous devez mettre en place. Je vais vous présenter 8 choses à mettre en place au niveau administratif. Attention, il y a des éléments que je vais vous présenter dont peut-être votre cabinet d'expertise comptable ne vous parle pas forcément, d'où l'intérêt d'écouter le podcast jusqu'au bout. Le premier élément à mettre en place, enfin je dis le premier mais d'ailleurs c'est pas forcément le cas, c'est votre convention collective. Alors la convention collective, je pense que là j'ai eu des petits yeux ronds, mais de quoi est-ce qu'elle me parle? C'est tout à fait normal, pas de panique. Je vais vous expliquer ça en quelques mots de façon simple, du moins je l'espère. En fait, lorsque vous créez votre entreprise, vous avez ce qu'on appelle un code APE, code NAF. On l'a tous, hein, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez en entreprise classique, entreprise individuelle, SARL, etc. On a tous un code NAF à la base. Normalement, si vous écoutez ce podcast, c'est que, a priori, vous êtes déjà en société entreprise classique, c'est-à-dire hors auto-entreprise, puisque bien sûr, c'est pas du tout avantageux pour vous de recruter dans ces conditions. Et en fait, c'est ce code NAF qui va déterminer quelle va être votre convention collective. Si, de façon basique, vous avez un code NAF dans lequel il est indiqué que vous faites de la pâtisserie, automatiquement, votre convention collective va être une convention collective attachée à la pâtisserie. C'est logique dit comme ça, mais en fait, si on ne le sait pas, c'est sûr qu'on ne peut pas le deviner. Votre convention collective, définissez-la comme étant en fait un peu votre bible sur ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire avec vos salariés. En fait, généralement, il y a le code du travail, bon, ça a priori, on connaît tous, on en a tous entendu parler. Mais en fait, ce qui va déterminer vos pratiques aussi dans votre entreprise, c'est la convention collective. Cette convention collective, vous avez l'obligation d'avoir un exemplaire dans vos locaux. Et ça, je peux vous assurer pour l'avoir vu dans ma pratique professionnelle. Premièrement, personne ne le sait. Et deuxièmement, il n'y a pas d'exemplaire en fait. Donc automatiquement, si personne ne le sait, c'est à peu près logique, il n'y a pas d'exemplaire. Mais c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une obligation légale. Vous avez cette obligation-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos salariés doivent avoir la possibilité de regarder la convention collective et de savoir si concrètement ce qui est appliqué dans l'entreprise est conforme à la convention collective. C'est bête comme chou. Voilà, donc convention collective obligatoirement à avoir. Deuxième élément dont j'ai envie de vous parler, c'est la mutuelle. Alors la mutuelle en entreprise est obligatoire. Vous avez l'obligation d'avoir souscrit à une mutuelle santé. Attention! Parce que du coup, la mutuelle n'est pas forcément obligatoire pour tous vos salariés. Il y a des prérogatives en fait qui font que pour certains salariés, c'est pas obligatoire. Si vos salariés ne veulent pas souscrire à la mutuelle, parce que par exemple, ils sont rattachés à leur conjoint, à leur conjointe, c'est possible. Dans ces conditions, il faut qu'ils vous fassent un papier dans lequel ils stipulent de façon claire et précise qu'ils ne souhaitent pas adhérer à la mutuelle de l'entreprise. Et surtout, la condition, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas en fait? C'est en fait ce qu'on appelle un critère d'exclusion qui permet du coup que vous soyez en totale conformité. Je vais pas rentrer plus que ça dans les détails parce que après je pense que je vais vous parler de choses un peu trop techniques comme l'URSSAF, etc. Et je pense pas que vous allez totalement aimer. Juste retenez que l'adhésion à la mutuelle est obligatoire pour toute entreprise, que vous ayez ou non des salariés. Vous en faites pas, vous cotiserez pas, vous cotiserez qu'à partir du moment où vous avez un salarié qui va être obligatoirement rattaché à une mutuelle. Et puis retenez que si votre salarié ne veut pas la mutuelle pour des causes qui sont spécifiques à la loi, dans ces conditions, il faut un papier écrit et signé de sa part à lui. Troisième élément, c'est la DPAE. Alors, la DPAE, c'est la déclaration préalable à l'embauche. C'est un document, obligatoirement, à éditer. Alors généralement, c'est votre cabinet expertise comptable qui le fait, mais en fait, si vous savez tout simplement pas qu'il faut la faire, eh ben, vous pouvez pas informer votre cabinet expertise comptable dans les temps. On recrute pas un salarié comme ça du jour au lendemain et puis on lui dit « allez, viens travailler demain à 9h et puis voilà, ton poste est prêt ». Non. Il y a des formalités administratives à faire, dont cette fameuse DPAE. Elle est à faire dans les 8 jours au maximum précédant l'embauche. C'est-à-dire que concrètement, si demain vous embauchez quelqu'un, à 9h par exemple, son horaire habituel c'est 9h, ça veut dire que à 9h, demain matin, il doit avoir sa DPAE d'établi. C'est bête comme chou, si vous ne savez pas comment remplir une DPAE, en 5 minutes c'est fait. J'ai écrit un article sur le blog, vous avez juste, je pense, à taper dans la barre de recherche de mafuturerecrue.com DPAE et vous tomberez sur l'article complet dans lequel je vous explique concrètement, étape par étape, comment remplir une DPAE. C'est absolument gratuit, donc si vous tombez sur internet, sur certains sites qui vous proposent une adhésion à la DPAE en vous facturant quelque chose, c'est une arnaque, c'est complètement gratuit, donc vous n'avez absolument rien à payer. Le quatrième élément dont je veux vous parler, c'est un élément qui n'est pas forcément connu, dont on ne fait pas forcément attention, dont on ne remplit pas forcément, et on se trouve happé un peu embêté, j'ai envie de dire. Cet élément, c'est le registre du personnel. Le registre du personnel, c'est un calepin, j'ai envie de dire, dans lequel en fait vous avez plusieurs colonnes, le nom, le prénom, la date d'arrivée, le poste, le type de contrat, etc. Et il est à compléter obligatoirement à chaque arrivée de salarié. Pourquoi j'insiste impérativement sur ça ? Parce que ce document, en fait, il vous est tout simplement demandé en cas de contrôle. Donc c'est un document que l'on oublie souvent, dont on ne prend pas en compte, mais qui est vraiment très important. Je fais une petite parenthèse par rapport à ce registre du personnel. Le registre du personnel est également obligatoire pour les stagiaires. Oui, 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 pour les stagiaires. Si demain, vous avez un stagiaire, que vous le rémunérez ou non, vous devez avoir une partie pour vos stagiaires dans laquelle, en fait, vous allez tout simplement préciser les mêmes informations. Attention, le registre du personnel pour les salariés classiques, c'est un registre qui est à part. Et en revanche, pour vos stagiaires, ce que je vous conseille, c'est peut-être d'avoir un registre du personnel à part ou alors d'écrire d'une autre façon, en fait, pour qu'on sache que ben, ça va être vos stagiaires. Enfin, il ne faut pas confondre salarié, stagiaire, donc bien faire attention à ça. Et dans tous les cas, si vous avez des stagiaires, même si là aujourd'hui vous êtes en entreprise, vous ne payez pas votre stagiaire, vous devez absolument avoir le registre du personnel. Cinquième élément, c'est l'adhésion à la médecine du travail. Alors la médecine du travail, ça aussi c'est quelque chose dont vous aurez les joies de découvrir le jour où vous recruterez. C'est obligatoire, donc vous avez déjà l'obligation d'adhérer à une médecine du travail. Il y en a plusieurs, ça dépend aussi des régions. Les prix sont variables, donc autant se renseigner en amont sur combien ça coûte, enfin plutôt sur les modalités de paiement, parce qu'une fois que vous l'avez choisi, après c'est un peu embêtant pour changer. Donc renseignez-vous d'abord sur ça. Mais aussi, il faudra faire la visite médicale pendant la période d'essai en fait. Et ça c'est très 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 important, c'est obligatoire. J'insiste sur ça parce qu'en fait, ne pas faire la visite médicale à votre salarié peut vous entraîner une multitude de problématiques par la suite. Donc c'est obligatoire, c'est à faire, encore faut-il le savoir, d'où l'idée de ce podcast. Le sixième élément, alors ça aussi, c'est un élément que honnêtement, pratiquement personne ne connaît. Pour avoir travaillé en cabinet d'expertise comptable et avoir été gestionnaire de paye, en fait, on le proposait à nos clients, mais en réalité, très peu, sans soucier. Voilà, donc ce document, c'est le DURE. Voilà, je vous ai perdu, je le sens. Donc en gros, c'est document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qui va tout simplement synthétiser tous les risques professionnels et qu'est-ce que vous pouvez faire pour y pallier. C'est pas très compliqué à faire, en soi vous pouvez très bien le faire tout seul, il y a juste des modalités à respecter. Et c'est tout, là aussi c'est obligatoire, c'est aussi pour ça que je vous en parle. Le septième élément, c'est le contrat de travail. Le contrat de travail, bon là vous allez me dire peut-être bon basique, ça c'est normal. En fait, le contrat de travail n'est pas forcément obligatoire. Ça, on le sait pas toujours. Pourquoi ? Lorsque vous concluez un CDI avec votre salarié, dans la plupart des cas, en fait, c'est pas obligatoire. Le code du travail n'oblige pas à avoir un contrat écrit, tout simplement. Et ça, très peu de personnes le savent. La seule condition qui va vous obliger à avoir un contrat écrit, c'est un texte de loi. Donc là, dans ce cas, c'est votre convention collective qui stipule noir sur blanc qu'un contrat de travail doit être fait par écrit, y compris pour les CDI. Attention, je mets un petit bémol, pour les CDD, le contrat écrit est obligatoire. Il est obligatoire et il doit être signé, si je dis plus de bêtises, mais je ne me rappelle plus trop des délais, dans les 48 heures suivant l'embauche au plus tard. Donc faites bien attention à ça. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas signer dans les 48 heures, tout simplement, vous risquez une requalification de votre contrat, c'est-à-dire que votre contrat, au lieu d'être considéré comme un CDD aux yeux de la loi, il va être considéré comme un CDI. Donc c'est quand même assez embêtant, donc prémunissez-vous contre ces risques et renseignez-vous d'abord au préalable sur les contrats de travail, tout simplement pour faire le bon choix et que ce soit fait en amont. Je voudrais aussi mettre petite mise en garde par rapport aux contrats de travail. Il faut que vous fassiez très attention par rapport à vos contrats de travail. Je vois souvent des entrepreneurs qui font leurs contrats de travail eux-mêmes pour faire des économies, pardon de le dire, mais de bout de chandelle. Si vous recrutez quelqu'un à temps plein, que vous le payez par exemple au SMIC, donc temps plein 35 heures, hein. 35 heures payé au SMIC, vous allez tout payer, donc enfin tout compris, pardon. Ça va être à peu près le coût pour vous de 2000 euros. Donc quand je dis le coût, c'est-à-dire le salaire net qu'il va percevoir et toutes les charges salariales et patronales. Sur 2000 euros, un contrat de travail, ça coûte, je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est à peu près 100 euros. Enfin, ça dépend de qui vous le fait, etc. Mais c'est en gros 100 euros. Est-ce que vous pensez vraiment que pour, par exemple, votre premier mois de salaire que vous allez payer pour votre salarié, c'est près de 2000 euros tout compris ? 2000 euros contre 100 euros, est-ce que ça vaut pas le coup d'investir dans un contrat de travail bien ficelé, dans lequel ça va être un juriste ou quelqu'un, un gestionnaire de paie qui a des compétences en droit social qui va vous le faire, qui va vous mettre des points en garde, etc. Plutôt que de le faire vous-même, sachant que vous avez des risques aussi que ce soit mal fait. Donc ça c'est pour moi hyper important, pourquoi je vous dis ça aussi, parce que j'ai vu des experts comptables faire des contrats de travail, récupérer des contrats de travail qui étaient absolument faux et essayer tant bien que mal de rectifier des payes, de rectifier le contrat et de ne pas rompre la confiance entre l'employeur et le salarié. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport au contrat de travail. Le huitième élément, c'est un point qui n'est pratiquement pas fait. Qui n'est pratiquement pas fait, que ce soit dans les entreprises que j'ai pu gérer, dans les entreprises dans lesquelles j'ai été salariée. Et pourtant, c'est un élément qui est primordial pour vous permettre d'attirer vos futurs salariés, de faire en sorte que vos salariés ne partent pas dans les 45 premiers jours de l'embauche, ne partent pas au bout d'un, etc. Ce document, c'est un processus d'intégration. Mais qu'est-ce que c'est ? Vous le savez sûrement si vous avez déjà été salarié c'est sûr, vous savez ce que c'est. En fait, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour qu'un salarié se sente complètement intégré dans une entreprise. Alors, le processus d'intégration, pour moi, il va bien en amont du jour J. D'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet sur l'intégration avant le jour J, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place pour faire en sorte que notre salarié se sente presque déjà intégré, enfin je dis presque déjà intégré mais c'est pas du tout le cas, mais qu'on commence ce processus d'intégration qui peut même durer plusieurs mois. Et en processus d'intégration d'ailleurs, il s'arrête que lorsque le salarié est complètement intégré dans l'entreprise, donc ça peut prendre d'ailleurs plusieurs mois. Voilà pour les 8 choses administratives que vous devez faire pour la première fois, surtout si vous recrutez votre salarié. C'est la toute première fois que vous êtes complètement novice dans le domaine. N'oubliez pas vraiment de prendre en considération ces éléments et de faire surtout les éléments qui sont obligatoires. Donc obligation, c'est les 7 premiers éléments. Vous voyez que je vous ai cité, le processus d'intégration, c'est pas un élément obligatoire, mais c'est un élément qui fait partie vraiment de vos ressources humaines, de votre management, de ce que vous voulez construire en tant qu'employeur pour vos salariés. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez surtout pas à me faire des retours, ça m'aide vraiment à construire un podcast de meilleure qualité. Écrivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, Ma Future Recrue, si vous avez des thématiques particulières que je souhaite aborder, si vous avez des questions par rapport au podcast, que vous voulez des informations complémentaires, je vous ferai un plaisir de faire un podcast sur la thématique qui vous pose problème actuellement. Eh bien, je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau podcast. Bonne semaine. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout pour cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Rendez-vous donc jeudi. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà visiter le blog mafuturerecrue.com pour retrouver toutes les semaines un article qui va vous aider à mieux recruter et à mieux gérer vos salariés. À bientôt !